Bonjour David B.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir pour la première fois à la librairie. Alors, on va faire une petite conférence d'une demi-heure, trois quarts d'heure, avec après des questions. Donc, je vous invite à préparer vos questions. Et ensuite, une dédicace. Donc, pour vous présenter rapidement, vous êtes auteur de bande dessinée, membre fondateur de l'association. On vous connaît surtout pour votre série autobiographique « L'ascension du haut mal ». Vous y comptez votre jeunesse, vos lectures, votre famille, à travers les crises de Jean-Christophe, votre grand frère. Et en grand lecteur, vous puisez votre inspiration dans les grands récits historiques des différentes civilisations, la littérature fantastique, le roman noir, les mythologies et l'ésotérisme. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas votre travail, je vais en présenter quelques-uns. Donc, parmi vos bandes dessinées, on retrouve les thèmes qui vous sont chers, comme vos rêves avec le cheval blême. Mmh. Ensuite, on retrouve aussi le fantastique noir, notamment avec les incidents de la nuit, polar, ésotérique, dans le milieu des livres à Paris. La mythologie aussi et les folklores d'Asie dans le Tango Carré et aussi le journal d'Italie, comme son nom l'indique. Le Moyen-Orient avec les contes de Nasreddin, mais aussi les contes des Mille et Une Nuits avec Azib. Et puis l'histoire aussi du Moyen-Orient que vous avez fait avec Jean-Pierre Filiou, historien pour Les meilleurs ennemis chez Futuropolis. Ensuite, on retrouve aussi, parmi les grands thèmes que vous adorez, le récit détective et la mafia, avec l'histoire du grand banditisme, notamment, qui est sortie il y a quelque temps. Et la littérature, toujours, avec Le Roi Rose de Macorlan, Marcel Schwab aussi, avec Le Capitaine Écarlate, dessiné par Guibert. Ouais. Voilà, c'était un petit tour d'horizon rapide, parce que c'est vrai que vous faites énormément de... Vous êtes un conteur de mille et une histoires. Et quant à votre dessin, c'est une ligne claire, un cerne noir assez expressionniste, parfois plus épuré, tantôt baroque pour certaines compositions qui fourmillent de détails. Et même si vous utilisez de plus en plus la couleur, c'est vrai que le noir a profondément, est profondément ancré dans votre travail comme un jeu d'ombre et d'ailleurs votre dernier livre qui est en noir et blanc. Voilà, donc on vous retrouve aujourd'hui pour Le Mort Détective, un récit en fragments, un récit feuilletonesque, frappé par l'esprit du feuilleton où vous avez invoqué un détective mort et toute votre mythologie. Alors, je vais vous laisser vous en parler. C'est un livre que vous avez donc débuté il y a longtemps.
Oui. J'ai fait les premières pages. En fait, c'était une commande du dessinateur et éditeur Igort qui avait fait une revue qui s'appelait Black et qui m'a demandé des pages pour cette revue. Puis je ne savais pas quoi faire, donc je me suis dit, tiens, j'avais cette idée du mort détective qui me trottait dans la tête. Et j'ai fait 5 pages comme ça, avec ce mort détective. Et du coup, après, la revue Black a connu une existence éphémère, donc j'ai pas eu l'occasion de continuer. Mais plus tard, je suis retombé sur ces pages et je me suis dit, tiens, je continuerai bien ce truc-là, ça m'avait bien plu de faire ça. Et j'en ferai bien un livre à l'assaut, à l'association. Donc c'est parti comme ça. À un moment, j'ai eu un trou dans mon emploi du temps. Je me suis dit, tiens, je pourrais insérer ce livre-là. Je l'ai proposé à l'association. Il a été approuvé par le comité éditorial. Malgré des critiques virulentes de François Hérol, ils ont accepté de le publier. Et voilà. J'ai sur une période d'à peu près un an, je me suis mis à travailler et j'ai complété le livre. Au début, il y avait 10 dessins et je suis arrivé à 108 dessins. Donc, j'en ai fait 98 en plus. Enfin, plus des ratés, certains que j'ai recommencés, tout ça. Enfin, c'est toujours comme ça quand on fait un livre, de toute façon. Voilà.
Il existe d'ailleurs une édition tirée à 200 exemplaires avec des images en plus.
Oui, il y a des images en plus. Alors, il y a un essai sur le même principe, mais en argot, que j'ai essayé de faire. Mais bon, j'ai assez vite arrêté parce que c'était très artificiel, en fait. J'ai utilisé un dictionnaire d'argot parce que je voulais traduire absolument tous les mots, enfin le maximum de vocabulaire possible. Et on arrive vite à des choses très artificielles. Donc j'ai arrêté. Et puis j'ai mis d'autres dessins, une série de 16 autres dessins que j'ai fait autour du même thème, du mort détective. Voilà. Et puis des croquis, des choses comme ça, un petit texte pour expliquer ce que j'avais voulu faire. Et voilà.
Comment ça s'est déroulé, ce projet de faire des images sous forme de tête de chapitre à la manière des vieux feuilletons ?
Ben bien, ça s'est bien passé. Non, j'ai eu beaucoup
avec Igor, notamment.
Avec Igor, Igor, il avait bien aimé, ça lui plaisait bien. Enfin, Black, c'était une revue qui était une revue un peu de genre, qui était orientée autour de la littérature noire, policière, de la science-fiction, du fantastique, du feuilleton. Donc, il était ravi d'avoir un truc comme ça. Et puis après, moi, c'est un univers que j'aime beaucoup, quoi, que j'utilise beaucoup, que je décline beaucoup dans tous mes livres. Donc, le reprendre, c'était une évidence pour moi. Et du coup, je me suis plongé après des livres qui étaient plus difficiles, comme Les meilleurs ennemis. Je me suis plongé dans un univers qui était connu. Donc, après, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est toujours ces façons de jouer avec les éléments du récit. Et là, c'était de réduire le texte au minimum pour laisser parler les images et utiliser beaucoup les ellipses, en fait. Donc, je faisais des croquis des dessins. Je me suis fait tout un tas de croquis de dessins. Et après, j'ai mis bout à bout. Je me disais, tiens, ce dessin-là, il irait bien avec celui-là. Enfin, je fonctionnais comme ça. C'est vraiment le dessin qui était le point de départ du livre. Et une fois que j'avais les dessins, alors des fois me venait un titre avec le dessin. Mais après, je trouvais les titres. Et ensuite, en dernier, je mettais la petite phrase qu'il y a sous chaque dessin. Et c'était aussi un livre oubapien. Je ne sais pas si vous connaissez l'oubapo, mais c'est en référence à l'ouvroir de littérature potentielle, l'oulipo. Il y a Jean-Christophe Menu a créé un oubapo, c'est-à-dire un ouvroir de bande dessinée potentielle. C'est-à-dire que chaque petite phrase est toujours il y a toujours une référence au fait de dire quelque chose. Là, la première phrase, c'est « Les écorcheurs sont de retour, scandale, étrange apparition ». Donc, à chaque fois qu'un personnage dit quelque chose, le mot qui exprime ça change. C'est-à-dire qu'il y a 108 mots différents pour exprimer le fait de dire quelque chose ou de ne pas le dire, d'ailleurs. Ça, c'était un espèce de jeu, de règles que je voulais m'imposer sur le texte. Donc c'est un livre, en fait, qui n'a pas l'air. Ça a l'air d'être un délire de n'importe quoi, mais en fait, c'est un livre extrêmement construit et extrêmement réfléchi. Donc, c'est peut-être le livre le plus construit que j'ai jamais fait, de ce point de vue-là. Voilà. Effectivement, les titres de chapitres, les textes qui en dessous, répondant au titre de chapitre et répondant à l'image, c'est une espèce de construction comme ça, de triple construction qui m'intéressait.
Et votre volonté, c'était de faire 108 images avec un jeu d'ellipse, avec tout ce qui n'est pas dit entre chaque image, c'est-à-dire malmener presque même le lecteur à essayer de trouver un lien d'une image à une autre. Ou est-ce que ce sont juste des histoires potentielles pour chaque image ?
Oui, à chaque fois, il y a une histoire potentielle, mais c'était aussi une façon de faire un feuilleton un peu en accéléré, en fait. C'est-à-dire d'aller très vite et puis de garder que les moments dans les feuilletons, un peu les moments de climax des feuilletons, quoi. Et chaque dessin repose là sur une découverte inquiétante, une confrontation entre des personnages, et puis d'enlever tous les dialogues, toutes les péripéties, tout le déroulement de l'histoire, de garder juste les points forts, les moments forts.
Il y a des feuilletons en particulier qui vous ont inspiré
Quand j'étais petit, j'ai beaucoup lu Gaston Leroux et ce qu'on avait à la maison, quoi. Et puis, comment il s'appelait, là, l'autre Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Et puis après, j'ai découvert Harry Dickson, mais plus tard, j'étais adolescent déjà. Et c'est vrai, Harry Dickson, ça m'a beaucoup marqué. Je crois que c'était ma référence. Et puis les images des romans de Jules Verne, avec la petite phrase en dessous, justement. Et j'ai cherché à retrouver dans ce livre-là quelque chose de cet esprit-là, quoi.
D'ailleurs, pour Jules Verne, effectivement...
J'ai repris... Ça, c'est une des références du livre. C'est le poulpe de 20 milieux sous les mers, qui devient le poulpe pieux dans mon livre, qui est un agent secret qui travaille pour le Vatican. Et voilà, je cherche à créer des personnages un peu absurdes pour nourrir cette histoire et la faire arriver à son terme.
Alors, en parlant de tous ces personnages, parce qu'il y en a plein dans votre récit, vous invoquez certains compagnons qu'on peut retrouver dans vos précédents livres. Mm-hmm. Je pense notamment à la première image, en fait, mm-hmm. où on retrouve cet oiseau noir qui est votre grand-père dans l'Ascension du Homal.
Oui, c'est comme ça que, dans l'Ascension du Homal, sous cette forme-là, que j'ai représenté mon grand-père mort. Et là, je me suis servi de ce personnage pour introduire l'histoire. C'est le messager de l'histoire. C'est peut-être le seul personnage qu'on ne revoit pas du tout après. Enfin, on le revoit aussi dans un dessin. Il y a un personnage qui fait référence. Mais j'avais eu envie d'introduire l'histoire par ce personnage. C'était justement parce que ces feuilletons, je les lisais. C'était des livres qui étaient chez mes grands-parents. Que je lisais quand j'étais en vacances, j'avais un souvenir lié à ma famille de toute façon. Et là, je pense que c'était une façon de rendre hommage à ma famille et ce qu'elle avait pu m'apporter, ce que leur bibliothèque avait pu m'apporter du point de vue littéraire.
D'ailleurs, quand vous parlez de vos personnages, j'ai retenu une petite phrase dans le troisième tome de l'Ascension du Homal, où c'est votre mère qui dit que tous ces dessins de guerriers et de soldats que tu fais, ce sont tes anges gardiens. Est-ce que ça ne ferait pas écho à la dernière image, justement, où on voit cette jeune femme, la fille aux mille poignards, donc un des personnages récurrents de l'histoire, avec le mort détective.
Oui.
Est-ce que ce sont toujours des compagnons de papier, des sortes de protecteurs pour vous.
Oui, je pense, oui. Je m'entourais de... C'est un peu ce qui m'a sauvé, disons. Alors là, vous allez dévoiler la fin, c'est pas bien. Les gens vont voir la dernière image.
Je peux ou pas?
Je sais pas. Qu'en pense le public? Vous l'avez déjà vu? Alors voilà. Et oui, d'une certaine façon, c'est vrai que je me suis... face à l'adversité et aux difficultés que pouvait poser la maladie de mon frère, le dessin m'a énormément aidé. On dessinait tous, les trois enfants, puisque j'avais un frère aîné et une petite sœur. On dessinait tous, mais je crois que je suis peut-être le seul qui a investi le dessin autant. Autant moi, j'ai toujours dessiné, autant mon frère et ma sœur se sont arrêtés au bout d'un moment. Et c'est vraiment moi qui ai investi le dessin d'une qualité protectrice évidente, oui.
Est-ce que vous attribuez une fonction, d'ailleurs, à chacun de ces personnages, puisque même la relation entre le détective et cette fille aux mille poignards est assez ambiguë?
Oui, oui, des fois, ils se disputent, ils se tapent dessus, ils se poignardent, ils se... Oui, c'est un couple et ça va pas toujours bien dans les couples. Donc, voilà, c'était une façon d'exprimer ça, je pense.
Oui, l'amour dévorant.
Oui.
Et il y a de l'humour, il y a des jeux de mots.
Oui, oui.
Notamment Lorsque la fosse sceptique.
Ah oui, la fosse sceptique, oui. Oui, oui, non, mais j'aime ça. En même temps, c'est pas un livre, c'est pas parce que c'est le mort détective que c'est un livre mortifère, que c'est un livre sinistre, que c'est un livre. Justement, j'avais envie, avec ces personnages-là, de faire un livre qui soit très dynamique. Enfin, les personnages, ils courent dans tous les sens. Ils sont très vivants, en fait. C'est très. Donc voilà, et donc aussi mettre de l'humour, bien sûr, avoir un certain recul par rapport à ça. Oui.
Vous travaillez comment ? Quelle est votre technique pour ce livre ? Est-ce que ce sont des dessins automatiques ?
Non. Bah comme je vous disais, c'est très construit et tout, donc je fais un crayonné. Enfin, je fais comme je travaille pour les bandes dessinées. Oui, je fais un crayonné. Je faisais toujours un petit croquis du dessin, et puis ensuite un crayonné, et puis l'ancrage, et puis voilà. C'est bien fait, hein, c'est du beau travail.
Oui,
hein,
c'est très, très
bien
fait.
Du travail de cochon, vite fait, comme ça.
C'est très bien fait, et puis il y a cette volonté.
On a le respect du lecteur, hein. Attention. C'est pas comme certains que je ne nommerai pas.
Pour les lecteurs, il peut y avoir aussi une difficulté à recomposer l'histoire. Est-ce que vous avez des clés à nous donner peut-être
Non.
Est-ce qu'il y a des choses cachées
Des choses cachées, non, pas vraiment. Il y a des références que les gens peut-être ne comprendront pas, enfin non pas, mais c'est pas grave. On peut lire le livre sans avoir les références de toute façon. C'est pas Les références, elles sont là pour les gens qui connaissent ou voilà. Mais c'est pour moi, c'est un clin d'œil comme ça. Mais après, le livre, il peut être apprécié, je pense, sans du tout que oui, les gens aient les références.
C'est étonnant parce qu'effectivement, on a beau le lire et le relire, on
après
on va
des
avoir
clés pour comprendre l'histoire, je ne sais pas s'il faut chercher forcément à comprendre l'histoire. C'est comme ça, c'est une espèce de, c'est une histoire fantastique. Pour moi, c'est de la poésie en fait. C'est des images poétiques qu'on suit les unes après les autres. Et voilà.
Avec vraiment une envie de garder ce mystère. Et c'est vrai que c'est fascinant. Hein, en le lisant, en le relisant, on y voit à chaque fois des choses différentes. Et on imagine beaucoup. Ce squelette détective, d'ailleurs, il était déjà présent dans votre travail avant, avec un petit garçon.
Avec un petit garçon, non.
Ce qui apparaît dans l'édition.
Oui, dans l'édition. Non, c'est des recherches que j'avais faites pour des histoires avec ce personnage, mais j'en avais encore rien fait, en fait. Et les premières... La première parution, c'était... J'avais pas mis le petit garçon. Au départ, c'était un couple avec... c'est-à-dire un personnage qui est mort et puis un petit garçon, c'est-à-dire la jeunesse et puis la vieillesse poussée à son point ultime. Mais j'ai jamais encore fait d'histoire avec les deux personnages, en fait. C'est-à-dire que le mort détective, comme assistant, il avait un petit gamin, en fait. Voilà. Mais je ne sais pas si j'en ferai quelque chose un jour, mais pourquoi pas. Mais voilà.
Et en tant qu'éditeur aussi à l'association, est-ce que vous avez participé au choix de la maquette, à la mise en page
Oui, c'est moi qui l'ai faite, oui. Enfin, non, la mise en page, c'est Lewis Trondheim qui a influencé la mise en page. Parce que dans la revue Black, les dessins étaient parus en... Il y en avait deux par page, en fait. C'était une revue qui était en format en hauteur, donc il y avait deux dessins par page. Et quand j'ai voulu faire le livre à l'assaut, j'ai continué à faire les dessins à deux par page. Puis il y a une réunion, c'est Lewis qui est arrivé. Enfin, c'est que ça, deux dessins par page, c'est pas bien. Faut faire... Pour mettre en valeur le dessin, il faut en faire un par page. Donc, du coup, on est passé à un format à l'italienne avec un dessin par page. Voilà ce qui a changé. Mais sinon, oui, la maquette, c'est moi qui l'ai faite. Je fais toujours les maquettes de mes livres, les couvertures de mes livres, à l'assaut, en tout cas. Ailleurs aussi, j'essaye le plus possible. Mais en tout cas, à l'assaut, j'ai toujours fait comme ça, quoi. Et puis après, la maquette intérieure, elle est assez simple, de toute façon. Mais la maquette du tirage de tête... J'ai fait ça avec la maquettiste de l'assaut, qui est Fanny Delrive, qui a mis tous les éléments en place et tout ça. Enfin, voilà.
Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Puis sinon, oui, pour le papier, ben, c'est choisi avec la chef de fabrication. Enfin bon, c'est, je sais pas si vous connaissez le travail d'édition, mais ça se fait comme ça, quoi. Elle me propose des papiers, elle me dit alors j'ai ça, ça, ça pour la couverture, on peut prendre ça. Voilà, donc je me retrouve avec des espèces de catalogues de cartons et de papiers à regarder pour choisir celui qui me plaira le plus, quoi.
Il y a une forme très étrange que vous avez inventée. Alors, je ne sais pas si je vais retomber dessus.
C'est moi que j'ai inventé un truc.
Oh, plein. Vous inventez plein de choses. Les excréments de rêve.
Ah oui, oui. Ça fascine tout le monde, ça. Je suis obligé de m'expliquer là-dessus. Et... Oui. Je ne sais pas, c'est comme ça. Ça m'amusait que les rêves... le rêve, par principe, c'est une chose qui, quand on se réveille le matin, ça disparaît. C'est très... C'est quelque chose qui est très difficile à fixer. Et là, ça m'amusait d'imaginer les rêves qui laisseraient quelque chose derrière eux, qui auraient fait caca derrière eux et qui auraient laissé leur crotte dans la chambre à coucher au réveil.
Les petites formes organiques. Et vous aviez aussi inventé les bombes à rêve dans...
Oui, c'était dans la lecture des ruines.
Oui.
Il y avait un canon à rêve. Parce qu'il y avait une théorie qui avait cours à la fin du 19e siècle, comme quoi si on empêchait quelqu'un de rêver, il mourait. Ce qui s'avère être totalement inexact. Mais du coup, j'avais utilisé ça dans une histoire qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, où il y avait un savant fou qui inventait un canon à rêve pour détruire les rêves des Allemands et les faire mourir et gagner la guerre comme ça.
Ouais. Parce que si on ne rêve plus, on devient fou.
On devient fou, oui.
Ça vous arrive de rêver de vos personnages de papier ?
Oui, des fois ça m'arrive, oui. Ou de rêver de personnages d'autres d'ailleurs. Je me souviens d'un des rêves des complots nocturnes où je rêvais de livres de Topor qui ne sont jamais parus en fait. Avec les titres, tout ça, et que j'ai dessiné d'ailleurs dans le bouquin. Mais c'était très frappant, c'était très réaliste. Enfin, vraiment, quand je me suis réveillé, j'avais l'impression que je pourrais aller dans une librairie, comme quand j'ai rêvé de la revue Les Incidents de la Nuit, que je pourrais aller dans la librairie et les trouver, quoi. C'était tellement ça correspondait tellement à du Topor que c'en était incroyable, quoi.
D'ailleurs, cette revue, Les Incidents de la Nuit, n'existe pas, que dans votre imagination.
Ben oui, non, elle n'a jamais existé, mais je vous dis, quand j'ai vu les... Enfin, il y avait tout un processus, c'est ça qui était marrant, parce que quand je la découvrais dans mon rêve, je la découvrais à la librairie Gibert à Paris, c'était en fait une réédition en poche de cette revue qui était censée avoir existé, donc elle avait déjà une existence... éditoriale importante, puisque elle était déjà rééditée, enfin, c'était des extraits qui étaient réédités, c'était très bizarre, c'était fou ça aussi, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. C'est trop bien,
il faut
en faire quelque chose, j'étais content de moi.
Moi, c'est ce qui me fascine en fait dans votre travail, notamment dans Les Incidents de la Nuit, comme dans le Journal d'Italie, c'est le fait que vous vous mettiez en scène et qu'on a envie d'y croire, on a envie de croire tout ce qui se passe, un petit peu comme un livre peut-être que vous connaissez, Rue des Maléfices de Jacques Yonet.
Ah oui, c'est un livre, quand j'ai lu ça, j'en avais entendu parler, j'en avais lu des extraits dans un... Je ne sais plus, à un moment, je me baladais beaucoup dans Paris dans les années 80 avec un copain, puis on se baladait dans les anciens squats, dans les terrains vagues, les maisons abandonnées, des choses comme ça, les maisons qui étaient promises à la démolition. Et je me souviens que dans une des maisons, on avait trouvé des vieilles revues, tout ça, j'en avais ramené. Il y avait une des revues dans laquelle il y avait des extraits de La Rue des Maléfices. C'est comme ça que j'ai découvert La Rue des Maléfices. C'était une revue des années 60 qui avait dû publier quelques extraits du livre au moment de sa sortie. Et pour vous expliquer, je ne sais pas si vous connaissez La rue des maléfices de Jacques Yonnet. Oui, tout le monde le connaît, ce livre. Oui, je vois un monsieur qui hoche la tête.
Il y a des noms quand même.
Il y a des noms ? Non, vous ne l'avez pas lu ? Sortez. c'est Jacques Yonnet, c'était un journaliste qui a aussi beaucoup écrit pour des théâtres de marionnettes, pour des pièces de théâtre de marionnettes. Et dans La rue des Maléfices, il raconte sa découverte d'un Paris un peu différent, un peu souterrain, de personnages un peu fantastiques comme ça. Parce que pendant la guerre, il était dans la résistance et il était obligé de se cacher. Il s'est caché dans le quartier de la rue Mouffetard. Et là, en se cachant, il a rencontré aussi beaucoup de gens qui se cachaient aussi. Mais pas forcément pour des faits de résistance, simplement parce qu'ils menaient une existence un peu particulière. Il y avait des voyants, il y avait un personnage d'immortel qu'on appelait le vieux d'après minuit, qui était un personnage avec une grande barbe blanche qui apparaissait toujours après les 12 coups de minuit. Et en fait, quand Jacques Yonnet demandait aux gens du quartier, à des vieilles personnes qui habitaient le quartier, qui avaient 80, 90 ans, elles disaient « Oh bah oui, moi je l'ai toujours connu, il était là quand j'étais petite, je me souviens, il avait toujours la même tête. » Et puis ma grand-mère me disait déjà qu'elle, elle le connaissait déjà à son époque, enfin, c'était un type qui était immortel, quoi, qui avait toujours été là. Enfin, ce genre de personnage, vous voyez. Et puis il racontait des tas d'histoires comme ça, absolument extraordinaires. Et donc je me suis dit, ah ben ça c'est un livre pour moi, il faut absolument que je le trouve. Puis on ne le trouvait pas, à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Enfin c'était... on le trouvait sur les quais, mais à des prix absolument défiant toute concurrence. Et un jour, les éditions Phébus ont décidé de le republier. Et là je me suis précipité, j'ai lu ça, c'était absolument génial.
Et ça se rapproche.
À mon épouse, quand on s'est rencontrés, tout de suite, elle m'a dit « Ah, c'est génial, il faut que je le traduise en italien. » Ma femme est italienne, donc je vais le traduire en Italie. C'est trop bien. Et puis, en fait, elle s'est rendu compte qu'il y avait un éditeur italien qui était en train de... il était en cours de publication en Italie. Voilà, mais je vous le recommande. Oui. La rue des Maléfices, aux éditions Phébus.
Puis si vous aimez effectivement le travail de David Bay, ça se rapproche. Hein. Promenades sous forme de songes, comme dans le journal d'Italie, on a envie de croire à tout ce qui se passe.
Oui, il y a quelque chose de ça, oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez...
Que je n'ai pas dites, il y en a plein. Je ne sais pas, oui. Mais je ne dirai pas tout là ce soir.
Il faut garder du mystère.
Et oui. Voilà.
Si, moi, je vous remercie pour toutes les lectures que vous nous donnez dans vos livres, oui. Notamment la découverte de la revue Planète.
Ah oui.
qui vous a peut-être moins influencé sur ce dernier livre.
Oui, non, c'est
peut-être
moins flagrant.
Plus sur les précédents et tous les livres, oui, que vous nous donnez envie de découvrir.
Je suis toujours en quête de nouveaux livres. C'est terrible, ma femme. Chaque déménagement est plus douloureux que le précédent.
Alors c'est une dernière question que j'aime bien poser en général, comme on est en librairie généraliste. Oui. Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller, une découverte.
Ah, un livre de la rentrée littéraire.
Pas spécialement, ce que vous voulez.
Ah bon.
Ça peut être un livre de photos, un roman.
Ouais. Attendez que je réfléchisse, que je ne dise pas de bêtises. C'est une question piège, ça. La rue des Maléfices, oui, c'est bien, mais est-ce qu'il y aurait autre chose? Qu'est-ce que j'ai pu lire récemment qui était bien? Non, si vous vous intéressez à la littérature fantastique, il y a une très bonne revue sur la littérature fantastique que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le Visage Vert. C'est une revue qu'on trouve en librairie, je ne sais pas si on la trouve chez Mola, mais c'est très bien fait. Il y a plein de choses intéressantes dedans. Voilà.
D'accord, merci.
Je vous en prie.
Et... vous avez des projets en ce moment ?
Des
vous
projets
êtes sur un
non,
nouveau livre ?
Non, je ne fais plus rien. Là, j'ai atteint l'âge de la retraite. Et je prends ma retraite. Bah oui, bien sûr. Là, je viens de finir. J'étais venu aussi en France et à Paris pour rendre les pages d'un livre qui va sortir dans la collection Noctambule, qui est un livre de... Ça m'a tellement plu de faire ce livre-là que je suis tout de suite reparti à faire un livre de dessins avec des textes en dessous et qui s'appellera Nick Carter et André Breton, pour rester dans le feuilleton. Qui est un livre sur le surréalisme, mais raconté un peu à ma façon, c'est-à-dire un peu étrange et particulière. Et c'est André Breton qui demande au détective Nick Carter, au détective de feuilleton Nick Carter, de mener une enquête pour retrouver l'esprit du surréalisme qu'il a perdu dans les années 30. Voilà. Et ça permet de raconter un peu la vie de Breton, en fait, de 1930 à sa mort en 1966. C'est un livre qui va sortir pour les 20 ans de la collection Noctambule. Et sinon, bah, je dois faire un donjon. Alors tout le monde me dit que je ne dois pas le dire, parce qu'il paraît que c'est un secret, enfin je ne sais pas. Mais Lewis ne m'a rien dit, donc j'en parle. Je dois faire un donjon. Et je dois faire un livre à l'assaut, enfin compléter les comics de Babel que j'avais fait justement toujours avec Coconino, avec Igort, qui vont être refondus, complétés et qui vont paraître à l'association.
En parlant de réédition, les séries que vous aviez, qui avaient été publiées chez Cornelius, est-ce qu'elles ressortiront un jour ?
Ah oui, ça, on m'en parle aussi. Je ne sais pas. Écoutez, oui, je vais essayer.
Ça reviendra peut-être.
Ouais. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité, mais je vais essayer.
Et pour terminer, il y a eu... depuis 2014, sur Internet, on peut trouver deux teasers assez incroyables de l'adaptation de L'Ascension du Haut Mal en film d'animation.
Ouais. Ah oui, c'est un des projets. Ça,
est-ce que
oui, il y a la productrice qui m'a téléphoné il y a deux jours. Bah, et on en est toujours au scénario. C'est compliqué. Faut écrire un scénario et il ne faut pas qu'il soit trop long, qu'il soit trop court. Alors on est toujours en train de retravailler une scénariste qui travaille là-dessus. Et puis on est toujours en train de retravailler le scénario. Alors là, c'était trop long, il faut en couper un peu. Donc il faut que je regarde. Et voilà, ça en est là. Puis,
eux,
le producteur cherche des sous pour... Mais sinon, il y a un studio, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout pour le faire après. Il faut juste avoir des sous pour pouvoir le faire. Mais là, ils ont bon espoir que ça se fasse. Je ne sais plus, il y avait mon co-réalisateur, le co-auteur qui voulait lancer le tournage du film, en fait, là, à la fin de l'année. Et puis la productrice préférait attendre l'année prochaine. Pour être plus sûr.
Ouais, vivement de voir tout ça. Merci.
Thank you.